Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Je suis le référent de tous ces migrants-là en France. Qu'un porte-parole de ces gens-là, qui vivent mal, qui sont dans la rue. Et je crois qu'on est tous des immigrés, en fait. C'est notre, on a des frontières parce qu'on parle des pays. Mais notre maison, c'est la terre, donc c'est les frontières, ça a été inventé par les êtres humains. D'un côté, on est tous des émigrés, mais deuxièmement, avec des circonstances de ces derniers temps, de tout ce qui se passe en Afghanistan, mais je ne suis pas là pour l'Afghanistan, mais j'aime l'humain, j'aime l'histoire des humains.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou dans le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, messieurs.
Oui, mais comment on boit ça?
Mika. Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et du Papilles, le premier épisode qu'on enregistre réellement de la saison 4, puisque les deux précédents étaient sur la Sommerfest. Pour cet épisode-là, j'avais envie d'avoir une rencontre un petit peu différente, mais on ne va pas rencontrer un vigneron qui est installé, il est encore étudiant, c'est encore un jeune padawan. Et son histoire m'a touché, j'ai écouté les interviews sur France 3 notamment, sur RTL, et j'ai dit, c'est important que, de l'entendre, de connaître son histoire, mais aussi et parce que dans l'épisode, la partie 2 du Sommerfest, il est présent et son discours, moi, me plaît beaucoup et me touche beaucoup. Et puis, on est vraiment dans cette notion de partage qu'on aime bien dans le vin nature. Il s'appelle Haroun Rahimi. J'ai pas fait d'erreur. Salut Haroun.
Bonjour à toutes et à tous. Sur ceux qui nous entendent, et vous aussi, merci de m'accueillir ici aujourd'hui devant vous. Et je suis très heureux de partager ma passion, mes vins, mon histoire et mes envies avec vous.
Comment est-ce que tu as vécu un peu ce, je sais pas si on peut appeler ça de buzz ou pas, mais cet engouement qui a eu lieu autour de toi fin du printemps, début de l'été où les médias ont repris souvent les articles et les interviews. Comment t'as vécu ça?
J'étais pas prêt. Dites-vous qu'en fait, vous arrivez dans une région aussi diversifiée, où on peut trouver des vins uniques, extraordinaire et que c'est rare de trouver autant de vins, autant de des différents vins dans une autre région pour moi, parce que moi j'ai connu toutes les régions de la France c'est grâce au vin et j'ai fait un peu tout partout pour voir la différence. C'est quand j'ai trouvé en Alsace ce côté unique, c'est pour ça que j'ai choisi l'Alsace. L'Alsace c'est un bon représentant des vins de nature pour moi. Et aussi un très bon ambassadeur de l'agriculture biodynamique en France. Quand j'ai regardé sur le site map, quand je cherchais un maître d'apprentissage pour moi, j'ai vu qu'il y a à peu près 50 des vignerons en biodynamie. Et je me suis dit, quand même, c'est pas rien, parce que c'est une région que ça montre qu'ils sont ouverts à tout. Et que ça peut être aussi des vignerons qu'ils acceptent toutes les contraintes et qu'ils essayent de proposer quelque chose de qualité en se disant qu'on n'est pas là pour empoisonner ni la terre ni les consommateurs. Donc cette démarche-là, cette mentalité-là, cette envie-là par les vignerons alsaciens, ça m'a beaucoup séduit. Bon, pardon, je vais reprendre ma phrase, vignerons, parce qu'il y a des vignerons aussi qui font rien. Il ne faut pas les oublier, ils font un travail remarquable en Alsace. Donc grâce à ces gens-là, aujourd'hui je me retrouve ici en Alsace et maintenant actuellement de Fambourg.
Alors nous sommes en 2012, tu pars d'Afghanistan, tu es originaire du nord de l'Afghanistan. Alors je te laisse dire le nom du village parce que j'ai peur de l'écorcher.
Oui, Mazar-e-Sharif.
Mazar-e-Sharif.
Mazar-e-Sharif, ouais. C'est à côté de la frontière de Tadjikistan.
Donc en 2012, tu arrives en France pendant 10 mois, c'est bien ça ?
8 mois plutôt.
8 mois, ouais. Tu apprends un petit peu le français. On peut dire que tu baragouines un petit peu le français. Ça.
Je me débrouille, ouais.
Et tu arrives avec ta mère et ton petit frère. Et ensuite, c'est quoi ton... Alors on ne va pas parler de l'avant. Donc, tu arrives comme jeune réfugié afghan.
Ouais.
Et donc, entre 2012 et tu repars en Afghanistan, c'est ça ?
Ouais, je repars en Afghanistan vers 2014. Bah, c'était pas vraiment 2012, c'était plutôt en mi-2011, fin 2011. Et nous sommes arrivés en France. On est resté pendant 8 mois en France. Et ma mère, elle est tombée très malade. Et donc, ça, le pays, l'atmosphère, ça ne le plaisait pas. Donc, c'était pas vrai. Ça ne la correspondait pas, on va dire plutôt. Donc, c'est pas elle, mais on a pris la décision de partir de la France pour qu'elle soit un peu soit heureuse et bien dans sa tête. Donc, on a décidé de partir en Pays-Bas pour faire une demande d'asile là-bas. Presque un an, mais pas vraiment, je ne suis pas vraiment sûr. On est resté, notre demande d'asile, ça n'a pas marché. On a eu une réponse négative au bout de 7 mois. Donc, on est resté quand même un petit peu pour faire les démarches, pour avoir un bon papier. Mais tout ça a été échoué, donc... a décidé encore une fois de partir de là-bas. Et moi, je suis venu ici en France avec mon petit frère. Mon petit frère est accueilli dans une famille d'accueil. Et moi, j'étais aussi pendant un certain temps dans une famille d'accueil. Et après, je suis parti parce qu'il devait...
Tu avais quel âge à ce moment-là ? Je suis désolé de te couper.
J'avais 13 ans.
Okay.
13, 14 ans presque, mm-hmm. Ouais. J'étais jeune encore, j'étais adolescent. Donc finalement, il devait partir. Donc je devais commencer à vivre tout seul. Donc j'étais dans un petit foyer. J'ai vécu là-bas pendant un mois, tout seul. Donc c'est là que j'ai eu avec beaucoup de réflexions et tout, j'ai décidé de repartir en Afghanistan, tout seul, à l'âge de 14 ans, 14 ans et demi, ouais. Parce que j'ai pas vécu beaucoup avec mon père et j'avais besoin un peu de cadre et l'amour d'un père. Donc j'ai annoncé à ma famille que je prends la décision de, à l'âge de 14 ans, tout seul, de partir en Afghanistan parce que... J'avais besoin d'une famille, j'avais besoin d'une maison, parce que c'est le rêve de tous les jeunes, parce que lorsque je voyais les familles qui étaient ensemble et tout, donc ça m'a touché énormément. Donc moi, je me suis dit, moi aussi, j'ai le droit d'avoir une famille, j'ai le droit d'avoir quelqu'un avec qui je peux discuter le soir quand il rentre. Donc C'était un moment très tragique aussi, car il y avait encore la guerre, c'était catastrophe là-bas, mais j'avais pas peur de mourir, je crois.
Quelle résilience, quelle leçon de vie. Non, moi ça me touche parce que je me dis, on a quand même, même si on a eu parfois des hauts et des bas, mais finalement on a toujours eu un foyer, une maison, et on n'a pas eu besoin de se battre et comme tu t'es battu toi. Moi je suis un peu touché, mais je crois qu'Adrien aussi là, m'a que dit Adrien aussi.
Et heureusement que toi tu parles beaucoup parce que je ne sais pas quoi dire.
Du coup t'es reparti et en 2016 t'es venu, j'ai envie de te dire définitivement, alors j'espère, je te le souhaite, que l'avenir on peut...
J'ai posé mes balises en Alsace, personne ne pourra me bouger d'Alsace.
Oui, mais on en parlera à la fin. Ouais. Mais on sait que tu as un rêve et je souhaite qu'un jour tu puisses l'exaucer. Et, bon, on va dire qu'avec les événements actuels, ça semble un petit peu compliqué, mais enfin, soyons un peu utopistes et l'utopie fait parfois du bien. Donc 2016, tu arrives en Alsace, c'est ça ? Et t'as été recueilli par...
J'étais accueilli par mes oncles, parce que mes oncles, c'est...
T'as de la famille,
j'ai de la famille à Paris, oui. Mes oncles, c'est des artistes qui vivent à Paris. Donc, j'étais accueilli chez mon oncle. J'ai vécu pendant 2 semaines là-bas. Mais après, c'est un peu compliqué mon histoire familiale parce que j'ai vécu avec ma famille pendant 2 semaines, mais j'avais besoin de la liberté. J'ai ce côté de ma mère parce qu'elle est aussi, elle s'est battue beaucoup pour nous offrir une meilleure vie. Et je suis toujours reconnaissant. Donc j'ai eu toujours cette ère-là de la liberté, de s'épanouir avec ses pensées, avec ses envies, avec son travail, et de décider pour lui-même d'être comme son propre maître, son propre capitaine de bateau aussi. Donc je voulais tout faire, je voulais tout décider moi-même. Donc je suis parti de chez mon oncle pour revivre dans un endroit où il n'y avait pas forcément ni une cuisine, pas grand chose, juste pour un endroit pour dormir. Et j'ai vécu dans un foyer comme ça. J'ai demandé de l'aide à une personne qui est très proche, qui est une femme très aspirante aussi pour moi. Donc il m'a pu accueillir dans sa grande maison. J'avais juste une chambre où je pouvais dormir et avec un petit bureau, mais enfin, les toilettes c'était très loin, la cuisine. Mais bref, c'est que j'avais eu pas peur de ça, donc je voulais juste un endroit pour dormir et après ensuite de faire les démarches pour les papiers et comme ça petit à petit de trouver ma voie, d'être sur mes propres jambes.
Comment est-ce que tu es tombé dans le vin?
Comment je suis tombé dans ce piège?
Dans ce piège?
Ouais, dans ce piège. C'était en 2016, c'était juste à la veille de Noël. En fait, c'était même pas juste avant les vacances de Noël. En fait, lorsque je suis arrivé en France en mars 2016, j'ai tout de suite au bout de deuxième mois, troisième mois, j'ai commencé à travailler à droite à gauche, j'ai fait des stages. Et là-bas, c'est là, quand on est juste pendant les vacances d'été, même avant, j'ai décidé de faire un CAP restauration hôtellerie parce que, et comme dans la restauration, il y a du vin et tout, on apprend. Donc c'était juste avant les vacances, mon prof il vient me dire, il y a un concours qui s'appelle Coupe de Georges Baptiste. C'est un concours pour devenir le meilleur chef de rang de l'île de France. Et j'étais un CAP, j'étais le plus âgé de la classe, et j'étais avec des jeunes et je parlais pas très bien le français. Il a dit, je vois que tous ces jeunes-là qui sont devant moi, je sais que vous êtes un peu timide. Et pour booster votre confiance, j'aimerais vous aider, j'aimerais que quelqu'un participe de ce groupe-là pour montrer que vous êtes une classe exemplaire. Et ça m'a beaucoup touché, cette phrase, ces mots. Et comme je ne parlais pas très très bien le français, je me suis dit, il faut que je me lance. Je me suis proposé tout de suite, j'ai dit, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à travailler 2 fois plus sur mes cours et sur ce que je devais apprendre, mais pourquoi pas. C'est aussi pour gagner de la confiance sur soi-même dans un pays où c'était pas notre pays d'origine, mais il faut faire sa place. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans le vin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je devais faire des recherches sur les plats. Et c'était juste c'était pendant les vacances de Noël. Et je suis tombé sur... En fait, je devais faire un accord mets et vins avec une viande rouge. Et j'ai tapé sur Internet qu'est-ce qu'on peut boire comme vin avec un plat... je me souviens plus du nom du plat. Mais j'ai tapé sur Internet, il m'a sorti une bouteille de grenache noir de Languedoc-Roussillon. Je me souviens très bien. Donc j'ai tapé, je ne savais pas le grenache noir, j'ai cru que c'était le nom de la bouteille. Je ne savais pas, c'était un cépage. C'est le nom de cépage. Donc j'ai tapé sur Internet, j'ai dit grenache noir. Donc je suis tombé sur un site expliqué c'était quoi ce cépage grenache noir et c'était quoi son histoire. Lorsque j'ai lu 3, 4, 5 lignes, et pendant quelques secondes, j'ai gardé le silence. Et j'ai réfléchi, et ça m'a beaucoup touché. Et j'ai continué de lire, j'ai continué de faire des recherches. Et au bout de quelques heures, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Pour la première fois de toute ma vie, je tombe sur un site, sur un article aussi, qui parle d'un cépage des raisins qu'on en a beaucoup en Afghanistan, mais que... J'ignore toujours quels sont les noms de ces cépages-là. Et en fait, j'ai trouvé de la... Comme je dis tout le temps, j'ai trouvé de la poésie là-dedans. J'ai trouvé de l'amour. On peut dire un peu de reconfort là-dedans aussi. J'ai vu que ce domaine-là, ça me correspondait bien. Et c'est là, comme ça, que je suis tombé dans ce piège-là. Et que jusqu'à aujourd'hui, je continue de lire des... Je dévore les livres d'endologie, les livres divines... parler de l'histoire et tout, donc c'est comme ça que je suis tombé là. Déjà, je déteste parler de moi. Mais deuxièmement, c'est que je suis le référent de tous ces migrants-là en France. Je me considère comme un porte-parole de ces gens-là, qui vivent mal, qui sont dans la rue. Et je crois qu'on est tous des immigrés, en fait. On a des frontières parce qu'on parle des pays. Mais notre maison, c'est la terre, donc c'est les frontières, ça a été inventé par les êtres humains. D'un côté, on est tous des émigrés, mais deuxièmement, avec des circonstances de ces derniers temps, de tout ce qui se passe en Afghanistan, mais je ne suis pas là pour l'Afghanistan, mais j'aime l'histoire des humains. Donc il y a beaucoup de pays qui souffrent. Il faut dire la vérité. La vérité, c'est ça, qu'en fait, beaucoup de pays souffrent de la guerre, de la faim aussi, parce qu'ils n'ont rien à manger, ou que ce soit de l'eau ou du pain. Et il faut en parler de tout ça. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est que lorsque je faisais mes démarches à la préfecture de Paris, et je rentrais dans l'établissement. Il faut attendre il faut arriver à 6h, 5h du matin pour avoir une place, pour avoir son tour. Et lorsque vous partez à 17h, alors que vous n'avez pas pu rentrer dans l'établissement parce qu'il y avait énormément de gens, donc vous dites pourquoi, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai vu l'état qu'ils étaient, tous les immigrants. Je ne parle pas seulement des Afghans, je parle de toutes les nationalités. Des Syriens, de l'Afrique et de partout. Donc, je dis, ils ne méritent pas ça, en fait. On ne mérite pas de s'asseoir par terre, dans la rue, alors qu'il y a des gens qui ont une bonne vie, mais pourquoi ne pas nous? Pourquoi on n'est pas chez nous? Mais on se bat tous pour avoir une meilleure vie. Donc, pour moi, c'était très important de montrer un bon exemple de moi-même déjà et ensuite de mon pays. Parce que je sais que pour toi, on ne peut pas m'apporter le malheur du monde sur notre dos. Mais déjà, de mon pays d'origine, de l'Afghanistan, je voulais être partout où j'allais, je voulais être un bon exemple. Je voulais m'intégrer énormément à la culture française, à savoir vivre à la française, apprendre la langue Molière. Pour moi, c'était très touchant, car dans notre langue perse, c'est qu'on a beaucoup des écrivains, des philosophes, qui ont une qui c'était des poètes qui ont écrit des livres extraordinaires qui s'est connu partout dans le monde. Donc cette poésie, ce langage très très on peut dire dans la quintessence même, et j'ai trouvé ça dans la langue française, et j'ai trouvé ça dans la langue qu'on parlait avant, j'ai vu des films de Mounier d'époque, et lorsque j'allais au théâtre, je sais, parce que mes oncles sont c'est des comédiens, comment ils communiquent, comment ils parlent, bon, pour moi, j'ai vu des personnes qui essayaient de garder ces valeurs-là. Et pour moi, j'ai considéré ces valeurs françaises comme mes propres valeurs. Donc j'ai essayé tout de faire une place de plus à l'intérieur de mon cœur pour ce pays, pour cette langue, pour cette richesse-là. Parce que quand même, je voulais... Si je vis ici, si je suis là devant vous, si j'ai pu acquérir de bonne expérience pendant ces dernières années, c'est grâce à la France, et que c'est un pays qui m'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'avec mon travail, je veux redonner cette je veux le remercier comme ça, parce que je suis fier d'être en France et je suis fier d'être un franco-afghan.
Fais gaffe, Adrien, parce que vu la détermination qu'il a, dans 10 ans, il parlera mieux alsacien que toi.
Ah bah, sans doute.
Tu parles un peu ou pas?
Fais gaffe. Non, mais j'essaie de dire comme Gates, je sais pas ce que ça veut dire. Quoi. Gates, je sais pas
pourquoi. Gates, ça marche.
Au plat. Ouais.
Au plat.
Voilà. Maintenant, c'est mon objectif, c'est aussi d'apprendre la langue alsacienne, parce qu'on est en Alsace quand même.
Et du coup, bah, tu es tombé amoureux du vin, hein, tu as décidé d'aller en apprentissage, parce que tu es toujours au lycée agricole à Oufac, c'est ça?
Maintenant. Oui,
ouais.
Mais avant, c'était quand j'ai fini mon CAP en 2018.
Oui. Donc, bah, t'as eu le concours ou pas au final?
Si, le concours. Alors, le concours, oui, j'y suis avec. En fait, on va dire cet exemple-là. En fait, il y avait dans le concours, il y avait des très très belles voitures. Il y avait des voitures de luxe. Et ma voiture, c'était un tracteur, en fait. Tu vois, il essayait d'avancer.
T'as des tracteurs de luxe.
C'était un tracteur.
Il y a le maintenant dedans.
Donc, il a essayé d'avancer. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, en fait, il a pu bien rouler. Il a eu un peu de panne, un peu, sur une épreuve. Et ça a été. Après, franchement, je me suis bien débrouillé, parce que j'ai eu un prof très bon aussi qui m'a aidé beaucoup. Donc, je suis devenu quatrième. Bien. Dans ce concours permis 20 jeunes.
Quatrième sur 20, c'est très bien.
Ouais.
Quelle résilience, quelle leçon de vie. Hein, Adrien. Ah, t'as la moustache qui frétille.
C'est difficile de ne pas tomber dans le politique et de faire des commentaires politiques avec ce qui vient d'être dit, mais c'est intéressant. Ce que je trouve intéressant, du coup, pour parler un petit peu, pour recentrer un petit peu sur le vin, c'est la dichotomie entre une vie assez difficile et finalement ton ressenti des problèmes qu'il peut y avoir dans le monde, et même des problèmes que tu peux avoir, et à côté de ça, des choses... Pour la plupart des gens, on pinaille sur beaucoup de choses, sur la texture en bouche. Tiens, c'est du granit, c'est tout ça. Oh, c'est du vin, c'est pour se bourrer la gueule. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Et finalement, toi, c'est entre des enjeux qui sont énormes et finalement des petites choses comme ça. Tu retrouves quand même un équilibre entre tout ça.
Tu as trouvé des phrases exactes. Franchement, c'est carrément ça.
Bon, bah, on finit, mais au revoir.
Non, franchement, non, tout ce que tu as dit, c'est vrai, que j'avais toutes ces choses-là qui me faisaient mal au cœur, mais il y avait cette passion-là qui m'apaisait le cœur, qui me détendait. C'était quand même la méditation, en fait, pour moi. C'était lorsque j'ai goûté un vin, quand je partais dans mes émulations et que j'étais dans le moment de réflexion, des pensées, et c'est ça qui m'aidait pour me soulever, de rester sur mes jambes, et puis de me projeter vers l'avenir, mais en étant beaucoup plus présent, au présent, de vivre le moment d'aujourd'hui, et puis d'être concret. Ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, et qu'est-ce qu'on propose exactement.
C'était plus dans la dégustation, c'était en rencontrant des vignerons qui t'expliquaient comment ils travaillaient.
Alors non, j'ai appris sur le vin parce que j'avais pas les moyens de payer un cours de la sommellerie, d'onologie à Paris, parce que ça déjà j'avais mes cours dans la semaine et le soir je devais travailler à côté pour gagner de l'argent pour vivre. Et deuxièmement, j'avais le seul choix. J'ai dit bon, j'ai cette passion, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux apprendre? Comment je peux m'intégrer? Donc je me suis dit, seule solution, il faut commencer par les livres, très simplement, et de commencer par les livres. J'ai commencé par les livres, et j'ai en discutant avec mes profs, donc j'ai demandé tout de suite, en février 2017, je devais effectuer mon premier stage, parce qu'en 2 ans, on devait faire quand même 2 mois de stage. Et tout de suite, j'ai demandé à un prof, je veux faire mon stage dans un bar à vin, dans un bistrot où il y a des vins, il y a un sommelier qui pourrait m'expliquer sur le vin pour la première fois, parce que j'ai pas envie d'aller dépenser de l'argent pour les cours, et j'en ai pas maintenant. Donc j'ai essayé comme ça d'abord de travailler avec des sommeliers, avec des personnes qui aiment le vin, qui sont là-dedans depuis très longtemps, et de voir comment ils parlent du vin. Et c'est comme ça qu'en fait, en travaillant avec ces gens-là, ça m'a touché. Mais après, je voulais faire des choses à ma manière. Je voulais présenter des vins à ma manière. Donc, la restauration, c'était ma passion. Mais en même temps, je voulais devenir sommelier. Donc, je voulais, en étant sommelier, je me dis comment je peux donner envie aux consommateurs sans être très commercial sur les prix, qu'on soit plus sur des où il y a de la sincérité et de la transparence. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment au début, lorsque j'ai commencé à parler des vins ou connaître sur les vins, c'est que pour moi, j'avais fait le choix. Pour moi, c'était le bio et la biodynamie tout de suite, parce que je savais que il y avait de la qualité, car je viens d'un pays où tout ce qu'on produit, c'est 100% naturel. Donc le vrai goût des légumes, du fruit, je le connais, je le sais quel goût ça a. Donc j'ai trouvé, lorsque j'ai goûté pour la première fois un vin en biodynamie, en bio, je trouvais plus de saveur, de la richesse dans ces vins-là, plutôt que dans un vin conventionnel. C'est mon avis.
Donc, tu étais étonné du coup en arrivant en France de goûter des fruits et des légumes qui avaient moins de goût?
Ouais, au supermarché, quand j'allais faire des courses... J'étais halluciné de tomber sur une tomate qui est super dure, qui n'est pas juteuse, et quand on goûte, il n'y a pas de goût. Donc je me dis, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur différentes manières de faire sur en agriculture. Donc je suis tombé, grâce à ma campagne, sur l'agriculture vietnamienne, et je ne découvrais pas, parce que c'était là-dedans depuis très longtemps. Et j'ai trouvé une qualité sur là-dedans. Donc pour moi, c'était très important de commencer par là, d'abord.
C'est hyper intéressant parce que ça montre qu'on peut arriver aux mêmes choses avec des parcours de vie totalement différents. Et finalement, ouais, on se retrouve sur des mêmes valeurs, mais à partir d'une culture qui nous est propre et une histoire qui nous est propre. Et on rencontre souvent des gens où on peut avoir soit une histoire similaire ou en tout cas avoir des référentiels en commun, et toi tu as une histoire différente de celle qu'on peut avoir ou que beaucoup ont, et puis on se retrouve quand même sur ces valeurs-là, et je trouve ça hyper intéressant du coup d'avoir différents points de vue et de pas uniquement écouter toujours les mêmes, quoi.
Et du coup, là on est en quelle année
Donc là, on est en année 2018, je descends dans le sud de la France, ouais, pour faire un apprentissage,
ouais,
dans le domaine de Château de l'Auve, on dit, okay. Et l'apostrophe OU. C'est un domaine en bio. Pour moi, je voulais absolument aller de travailler dans un domaine qui est en bio. Donc ce domaine, c'est en bio depuis 20 ans, même plus que 20 ans maintenant. Et je cherchais déjà énormément pour travailler dans un domaine en biodynamie, sauf qu'il voulait quelqu'un qui a fait déjà un BTS, donc un bac pro. Donc je me suis dit, bon, si je veux faire travailler dans un domaine qui font des vins nature et qui travaille en biodynamie, il faut que je fasse mon bac pro en premier temps, et ensuite en deuxième temps j'y vais faire un BTS pour pouvoir atteindre à mon rêve. Oui, c'était mon rêve de faire un BTS et de travailler dans un domaine en biodynamie et faire des vins nature. Donc j'ai fait ce bac pro là-bas pendant 2 ans à Perpignan, Et les cours, c'était à Narbonne. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et pourquoi, oui, ouais, pourquoi je suis descendu à Perpignan? C'est aussi parce que en 2017, je suis allé en vac, je suis descendu en vacances dans le sud de la France et je suis tombé amoureux. Je suis allé exprès pour ce fameux cépage Grand Nachenor que j'ai étudié pendant le concours et je voulais absolument faire une visite dans cette région pour connaître les vins pour la première fois, d'aller dans une cave et déguster, de découvrir. Et j'étais, j'avais comment dire parfois qu'on avait les yeux plus gros que le ventre. Et là, ce jour-là, mes yeux, ça a été explosé parce que j'étais vraiment hors de cette terre, parce que j'avais ce bonheur-là et ce bonheur qui est vraiment pas très, très explicable parce que j'ai pas de mots pour tout ça, ce que j'ai vécu pendant pendant un certain temps que j'ai dégusté. C'était la première fois. Et c'est comme si que j'avais réalisé mon rêve. C'était pour moi, c'était grandiose. Parce que même au début, quand j'ai commencé à aimer du vin, quand j'avais pris sur les vins d'Alsace, parce que j'ai commencé par les vins d'Alsace, parce que mon prof, il m'a dit, il faut, si tu vas apprendre sur le vin, il faut que tu commences par les vins d'Alsace. Parce que c'est des blancs, tout est blanc, et c'est des vins avec beaucoup d'arômes et beaucoup d'une simplicité très bien. Donc c'était le Pinot Gris et le Riesling que j'ai découvert avec le Pinot Gris. Et quand j'allais dans le supermarché, et j'ai regardé, j'étais quand même avoir l'accès à ces vins-là et de voir ces vins-là que j'ai appris sur les livres, sur Internet. Pour moi, ça signifie beaucoup pour moi. J'étais très heureux de découvrir. Mais après, cette histoire de supermarché, c'est pas le meilleur endroit pour découvrir un vin, mais pour moi, c'était le début. Donc j'ai les vins d'Alsace, et dans le sud, c'était ça aussi. Dans le sud, c'était le Grenache noir. Donc, je suis descendu absolument, je voulais voir ces vins-là, de travailler surtout avec une méthode de culture de gobelet. Parce que c'est taille gobelet, je crois que c'est grâce à les vignes des tailles qui sont en taille gobelet que je suis tombé dans nos mains. Et c'est pour ça que je suis descendu dans le sud. Et après, quand je suis parti, j'ai dit, il faut que j'apprenne, il faut que je veux travailler ici, il faut que je revienne ici pour apprendre le métier, pour mettre mes mains dans la terre. Donc après, j'ai fait, de 2018 jusqu'à 2020, j'ai fait 2 ans d'apprentissage chez eux. Et ensuite, je voulais faire un BTS absolument. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et tout pour venir en Alsace. Et comme c'était inattendu de travailler au domaine Bandwart. Parce que quand même, l'écurie et tout, c'était ma passion et la vin nature. Donc on peut dire, voilà, c'est ça que je veux dire. Je remercie à tous les vignerons qui ont refusé ma candidature. Car aujourd'hui, je travaille dans un domaine qui me correspond énormément. J'ai toujours dit ça et je continuerai à dire ça toujours.
Et le premier fromage qu'il a mangé, d'ailleurs je crois que c'est un de tes fromages préférés maintenant, c'est le Master.
Ouais, d'Alsace.
Et le premier cépage que tu as bu, c'était le
Pinot Gris. Et 5 ans après, je me retrouve en Alsace.
Au domaine Benvar, bon, on va dire bonjour à Stéphane, Régine.
C'est un joli domaine pour commencer, effectivement, en Alsace, je pense que...
Mais pour continuer, pourquoi?
Stéphane qui fait partie de Pirouette aussi.
Ouais. Qui était le président des films vivants aussi. Ouais.
Et qui est très ami avec Christian Biner. Bon, c'est bien sûr. Bien sûr. Et bah, du coup, tu te retrouves à l'abbaye...
De Marbach.
De Marbach.
De l'association des vignes vivantes.
Alors, qui est une abbaye, je crois, de tête bénédictine, aux jésuites. Bonjour. Donc, c'est un ancien prieuré. Hein, un ancien prieuré. Et là, tu as découvert des cépages oubliés.
Ouais.
Et tu as façonné ou tu t'es pris de passion pour les cépages oubliés, c'est ça?
Ouais.
Et tu t'es rendu compte aussi qu'il y avait des cépages qui étaient interdits en Alsace. Mmh. Alors depuis 1945 et la crise du phylloxéra, il y avait planté par exemple du Riesling rouge.
Ouais.
Il y a du Sylvaner bleu aussi. Et c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu. Ce serait intéressant d'en discuter avec lui un jour, tous les deux, je pense.
Ah, ça sera grand plaisir.
Je peux me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. C'est quoi l'association Vigne Vivante? Moi, je ne connais pas du tout.
C'est une très bonne question.
L'association Vigne Vivante a été créée en 1997 parce qu'il y avait un domaine et un... on peut dire un domaine, un conservatoire dans le sud de la France qui allait se fermer. Mmh. Quand je dis domaine Vassal, si je ne me trompe pas, parce que je suis nul en histoire. Et ça allait se fermer, donc ils cherchaient. Et donc ils ont fait la demande pour que ces cépages-là, ça serait répartis ici en Alsace pour pouvoir faire des recherches comme l'INRA et de voir quels sont leurs potentiels d'ici quelques années. Mmh. Donc ça a été réparti ici en Alsace et la première fois que ça donnait des raisins c'était l'année d'avant. Donc c'est cette association Vigne Vivante aussi, ils ont l'objectif le but de montrer qu'en fait pour battre le réchauffement climatique, qu'il y a de l'avenir. Donc avec ces cépages qui sont interdits, comme l'hybride HPD noir, pardon, ou d'autres cépages comme Sylvaner bleu ou Portugais bleu, et des cépages très très intéressants et qui n'ont pas besoin beaucoup de traitement, premièrement, et deuxièmement, que ça peut répondre à notre besoin dans quelques années. Donc c'était aussi la sous-démarche vraiment environnementale qu'ils ont voulu faire. Donc c'est comme ça que ils ont planté 80 cépages, donc 80 cépages différents. Et la production que ça donnait la première, c'était avant l'année dernière, c'était un Belge qui a vinifié tous ces cépages-là, qui a fait un assemblage de tous ces cépages et il a fait un petnat. Et là, après, lorsque je suis arrivé, c'était en juillet 2020 chez Stéphane Van Wart. Et juste avant de commencer les vendanges, on était allé visiter les vignes de Marbach pour la première fois avec Michel, la compagne de Christian et Albert Hertz des Kissim. Il y avait Stéphane et moi. Donc Stéphane, à cette époque-là, il était encore le président des Vignes Vivantes. Donc on est rentré. C'était la première fois que je rentrais dans un lieu aussi sacré. Donc en dégustant tous ces baies, je me suis dit, c'est incroyable parce que ces cépages-là, ils ont un potentiel incroyable et que la capacité qu'ils ont, et si on peut faire un vin nature avec, du coup, 100% avec des raisins, ça peut donner des vins vraiment différents en Alsace et que moi, comme celui qui est un opportuniste, qui comme moi, qui cherche sa place dans un endroit, donc je me suis dit ça peut être le bon moment pour proposer des nouvelles façons de faire du vin en Alsace. C'est comme si je prends comme vous des plats. Il y a certains cépages qu'on dit aujourd'hui que c'est des cépages qui sont très productifs, ou qu'ils ont des goûts foxés, ou que ça peut nous rendre aveugles, ou ça nous peut rendre fous quand on parle des hybrides, parce qu'il y a beaucoup de méthanol là-dedans. Mais mon objectif, avant tout, c'était de montrer aux gens, à toutes ces personnes qui parlaient très négatives sur ces cépages hybrides. Je parle vraiment de tous les professionnels que j'ai connus, que ce soit à Roufac ou ailleurs. Ils ont vraiment une très mauvaise... Imaginez-vous, vous allez dans un endroit où vous avez envie de faire quelque chose et on vous décourage. On dit que c'est mauvais ce choix-là. Et...
Je ne vais pas parler de Stoffen et d'ouvrir une caverne.
Donc,
excuse-moi.
Non, je t'en prie. Donc, pour moi, je me dis, c'est quand même incroyable. On a des aussi jolis cépages, qu'ils ont aussi bon goût. Et aujourd'hui, quand je repose la question, c'est quoi leurs avis sur ces cépages-là, c'est pas très positif. Donc, moi, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est qu'en fait, Stéphane, il cherchait un vinificateur et il savait pas qui allait le faire. Donc personne ne se montrerait volontaire. Et moi, je me suis dit, comme j'ai jamais fait du vin, ce sera un bon début. Donc ce sera le début de la richesse pour moi. Et donc, je me suis tout de suite proposé à Stéphane. J'ai dit, je veux le faire. Mais avant ça, quand même, j'avais de l'intérêt pour le cépage oublié, des cépages résistants et hybrides. Je le connaissais un petit peu. Et j'avais découvert il y a un an, par exemple, juste avant les vendanges. Et je me suis intéressé encore plus. Et lorsque tous les avis que j'avais entendus avant et après par rapport à ces cépages-là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, et je vais montrer à toutes ces personnes-là qui ce qu'ils disent, c'est faux. Qui n'ont pas de raison. Et que je voulais donner, pas de leçons, mais plutôt un bon exemple de faire du vin. Parce que moi, j'aime bien de montrer des exemples aux jeunes vignerons, aux jeunes vignerons qui veulent faire ce métier, qui ce soit un métier avec beaucoup de simplicité. Mais il ne faut pas oublier les trois arts. Artisan, agriculteur et artiste. C'est comme Stéphane Bannart, il dit toujours. Donc il faut rester beaucoup dans ce côté improviste aussi, d'improviser. C'est comme si on va parler des grands comme Shakespeare, on va dire qu'ils ont fait ils ont improvisé des scènes de théâtre incroyables. Ils sont partis sur l'improvisation et ils ont créé quelque chose d'extraordinaire. Ou des musiciens comme Franz Schubert ou Chopin qu'ils ont improvisé des musiques. Aujourd'hui c'est devenu sacré. Ou comme certains cuisiniers comme Paul Bocuse qui fait des plats, il improvise chez lui parce qu'il est dans l'imaginaire, il est présent, il n'essaye pas de copier, il essaye de mettre sa propre recette. Et moi je me suis dit, il faut que je fasse la même chose pour ramener ma touche à moi, celle de ma culture, des saveurs que je connais, que j'ai dans l'intérieur de moi, tous les voyages que j'avais fait au long de ma vie, que ce soit ici en Europe ou en Asie. Il faut que je fasse un vin qui me correspond et qu'en même temps, quand quelqu'un les goûte, il ne faut pas qu'on soit plutôt comme des professionnels pour qu'on parle quel défaut il a, il est fait comment, ceci, cela, mais plutôt rester présent et d'apprécier le vin et rentrer en contact avec le vin et le sentir et écouter ce que ce breuvage qui est dans le verre, il a à nous dire, ce qu'il a à nous dire, pardon. Donc je voulais montrer, je voulais donner cet aspect-là et en même temps de montrer un bon exemple et de montrer aux tous ces gens-là qui critiquent ces vins-là, qu'est-ce qu'on parle des pertes des vignerons jusqu'à l'État, que c'est des vins qui ont une grande potentiel et c'est des vins qu'on peut faire des bons vins avec. Et il faut qu'on soit libre de pouvoir un jour planter des cépages hybrides et faire du vin avec. Et qu'on soit autorisé, parce que ces cépages-là, les bouteilles que vous voyez, il y a quand même quoi, une dizaine de cépages hybrides. Et vous allez voir, c'est pas grave, si c'est pas bon, c'est pas grave, mais au moins ça vous prendra pas fou. Hein. C'est ce que je peux vous assurer.
Place à la dégustation.
Alors. À la base, j'ai fait 3 cuvées différentes. Et tout de début, je voulais faire à peu près 5-6 cuvées différentes. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des saveurs, des arômes incroyables dans chaque cépage. Et je voulais je voulais qu'il s'exprime, en tout cas.
T'as combien de cépages en tout ?
80 cépages. Donc je voulais... Avec les 80, je voulais faire au moins 9 cuvées différentes. Okay. 10 même. Donc j'ai posé la question à tout le monde, je me suis renseigné, ils étaient tous contre. Ils me disaient non, ça ne marchera pas, les micro-cuvées, c'est pas bon, ça sera oxydé, nanana, nanani. Mais comme j'ai on dit dans le sud, à Narbonne, une expression dit la tête plate. Et moi, comme j'ai une tête plate et que parfois je fais à ma manière, et pas parfois. Oui, voilà, je suis pas
persporien en fait.
Ouais, c'est pour ça qu'on a eu un peu, on est un peu plus gros. Et non.
Moi, les siens étaient tués aussi, je t'en dis pas.
Non, mais voilà, c'est qu'en fait, personne m'a soutenu. Voilà. Il y a des démarches que je fais. Moi, Stéphane, il n'était pas vraiment d'accord pour que je fasse trois cuvées différentes à la base. Mais je me suis imposé et puis j'ai pris mon courage et ma motivation. Je me suis dit, si je fais confiance sur moi-même, si j'écoute mes intuitions, je crois pas que je vais échouer, même si j'échoue, c'est que soit je vais apprendre, ou soit je fais l'expérience. Mais en tout cas, je vais pas perdre, car au moins j'ai essayé. Donc pour moi, j'avais pas du tout peur de rater, Et donc, finalement, je suis tombé sur. Je me suis dit, au moins, je fais trois cuvées différentes. La première cuvée qui j'ai faite, c'est la cuvée de noix, où il y a 70% de noix HPD, de cépage hybride, qui est interdit, qui donne des baies très grosses. Et c'est très aromatique et en même temps, c'est très juteux à l'intérieur. Et ça vous rappelle un petit peu ce côté exotique, un petit peu ce côté tropical. Et j'aime beaucoup ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas mal de sucre là-dedans et moins d'acide. Comment je peux faire pour faire un vin bien équilibré, un vin qui me correspond. Donc moi, j'aime bien boire. C'est l'idée de base, c'était ça. Donc je suis tombé sur un cépage qui s'appelle Potcherry. C'est un hybride aussi de l'Autriche. Donc j'ai ce cépage là, c'est un cépage très tardif parce que il avait encore des petits baies et que c'était pas assez mûr. Mais ce que j'ai aimé chez ce cépage là, c'est qu'il avait ce goût un peu de poivre gris, de ce côté salin. Je me suis dit dans ma cuisine à moi, en fait dans les saveurs de chez moi, de ma couture, on fait pas mal des plats un peu sucrés salés et j'aime beaucoup ça. Et je me suis dit, pourquoi pas dans le vin aussi essayer d'improviser, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire une cuvée, ce côté salé sucré. Ça, juste pour essayer, pour voir qu'est-ce que ça donne. J'étais curieux. Et quand je suis curieux, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais jusqu'à la fin. Voilà. Donc j'étais allé.
T'as tout vendangé en même temps?
Non, j'ai fait les vendanges en deux fois.
Ok.
Donc j'ai fait les vendanges en deux fois parce qu'il y a beaucoup de cépages précoces et tardifs.
Ok.
Donc là, j'ai vendangé d'abord la cuvée le noix et ensuite, en fait, le noix et la cuvée Ava, j'ai fait en même temps. Alors, pour cette cuvée noix, j'ai choisi deux cépages différentes et pour cuvée Ava, qui veut dire vivante en hébreu, j'ai choisi à peu près 35-40 cépages différents.
Ok, bon, bah, on attend pour la liste.
Bah, attendez, j'ai la liste.
En plus, c'est que la liste.
Parce qu'il y a combien de pieds sur chaque cépage du
coup ? Disons qu'en fait, t'as 80 cépages, mais sur une ligne,
okay,
il y a 3 pieds d'affilée et de même cépage.
Ok, d'accord.
Tu vois ce que je veux dire ? Il y a 3 pieds de chaque cépage.
Et après 3, et après 3.
Ouais, c'est à peu près, il y a quoi ? 4-5 cépages sur
la même ligne, oui.
Alors il est venu avec ses devoirs avec tout.
Il y a cette cause.
Tous les cépages à peu près. Donc les cépages, mon cépage préféré c'est noix HPD que j'ai cueilli pour le Ava. Donc j'ai pris celui-là avec Potcherry. Mais pour le reste, pour le Ava, j'ai choisi des cépages, en majorité des cépages rouges. Comme il y a Sebel, c'est rouge aussi. Sylvaner rouge, il y a là-dedans aussi. Oberlin aussi. Et Sylvaner bleu aussi, il y en a là-dedans. Et Portugais bleu, parce que j'ai beaucoup aimé Portugais bleu. Si dans l'avenir quelqu'un va planter ces cépages-là, Portugais bleu, il a aussi. Et comment dire, c'est un bon concurrent en tout cas.
C'est la moitié que j'ai jamais vu.
Donc après, il y a des cépages qui sont pas mal aussi. C'est comme Sylvaner rot, qui est pas mal. Riesling rot, qui est pas mal. Alors après Saint-Sauveur d'Alsace qui est pas mal aussi. Chardonnay musqué aussi qui est bien.
Ouais.
Riesling bleu,
ouais.
c'était très bon. Riesling aromatique, Traminer rose, Rosen muscat et muscat autonel qu'on n'en voit pas beaucoup, qui en a beaucoup. Et muscat bleu aussi métis qui est très bien aussi.
Ouais.
Muscat bouquet, faux Berlin. Et muscat cendre qui est là-dedans, qui est très bon, et bouquet sylvaner, Firn Riesling, et après j'ai pas mis à 100% des cépages roses parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai assemblé aussi quelques cépages blancs aussi. Il y a pas mal de sylvaner et de pinot gris aussi, des Riesling. Ouais. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Il y a ces cépages-là. Donc, ouais, on a vu l'Ascat bleu. Ouais, l'Ascat bleu. En fait, la particularité de l'Ascat bleu, c'est que en fait, les feuilles sont rouges. Sont roses.
Oui, ouais, ouais.
On dirait qu'ils ont une maladie, mais franchement.
Il y a un cépage qui s'appelle Louis.
Oui.
Un cépage qui s'appelle Louis.
Oui.
Il y a un cépage qui s'appelle le Précoce de Colmar.
Précoce de Colmar.
Et parce que, c'est oui, d'ailleurs, c'est ton, ouais. C'est ton petit journal.
C'est, les chercheurs qui ont fait des recherches ici en Alsace. Donc voilà, donc là, vous avez majorité tous les cépages. Donc je suis tombé amoureux de ces cépages-là et je voulais qu'ils s'expriment à travers mes vins, le potentiel qu'ils ont, et que pour dire aussi que ces cépages, pourquoi pas, pourquoi ils ne sont pas déjà plantés, pourquoi on les interdit. Bon d'accord, il y avait cette histoire de AOC, c'est des
tas... Tu as posé la question aux instances?
Bah, j'ai pas envie de poser la question parce que je connais déjà la réponse. Voilà. Donc ça m'intéresse pas leur réponse. Mais aujourd'hui, pour être sincère avec vous, avec tous les auditeurs qui m'écoutent, c'est que mon combat, c'est aujourd'hui, c'est de faire revivre ces cépages-là. Que je puisse, je veux pas être dans le centre du monde, mais je veux à l'aide de tous les vignerons qui existent en Alsace ou dans notre région, qu'on fasse une démarche pour faire autoriser ces cépages-là. Car l'autre jour, je suis allé à Marbach. Je vous cache pas qu'il y a certains cépages, quand même, ils étaient beaucoup touchés par le milieu et l'odium. Mais ces cépages résistants, pour moi, c'est un cépage résistant, même si ça fait peur à certaines personnes, le mot résistant, bon, on va dire le cépage tolérant. C'était surtout ces cépages hybrides, c'était le noir, le muscat, il y avait du muscat aussi, sylvaner bleu, Oberlin HPD. Ils n'étaient pas du tout touchés. J'ai pas les photos, mais je peux vous assurer qu'en fait, il n'y avait pas d'impact sur les feuilles, pas d'impact sur les baies. Donc, ça veut dire que c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est ça qui est, c'est là que ça se trouve.
On ces vignes-là sont jamais traitées
Ces vignes-là, si, ça a été traité. Okay. Mais pas 10 fois comme d'autres vignerons autour de nous qui ont traité plus que 10 fois parce qu'à cause des milieux. Mais ces vignes-là, ça a été traité au moins 2-3 fois. Mais moi, je peux vous assurer que même si on ne le traite pas, il peut vivre. Donc, autant de faire vivre ces cépages-là et diminuer le coût de passage avec le tracteur d'abord, mais ensuite, on peut dire aussi le coût de tous ces produits chimiques qu'on met dans les vignes. Le cuivre est sourd, mais on dit que c'est rien, mais franchement, le métal que vous mettez dans le sol et qui, avec tous les micro-organismes qui vivent au sous-sol, donc je crois pas que ce sera génial, comme si vous êtes sur la terre, de l'atmosphère, on vous jette des métals et vous dites, bon, c'est toléré. Vous voyez? Donc, pour moi, il faut que les vignerons ils s'investissent, il faut que les gens ils se montrent volontaires pour que si on veut combattre le réchauffement climatique et diminuer ses coûts de traitement et nombre de passages avec le tracteur, donc il n'y a pas 1000 chemins. En tant qu'un jeune vigneron avec peu d'expérience par rapport à d'autres grands vignerons d'Alsace, je me permets de dire ça parce que c'est vrai que je viens d'un autre pays, le vin c'est pas notre métier, mais malgré tout ça, je vois le monde et je vois ce domaine-là d'un nouveau, avec d'autres yeux, avec d'autres reproches. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que c'est le temps, c'est le moment de changer les choses vraiment très fort. Donc il faut pas attendre que tout se passe bien, il faut pas attendre que tout le monde soit d'accord. Il faut se montrer volontaire, il faut se manifester. Et si c'est lui qui veut travailler 100% de nature et qu'il même donne de la vigne jusqu'à sa cave, et il faut travailler dans le vinaigre avec ces cépages-là pour moi. Parce que vous allez goûter, si c'est vraiment pas bon, bon, je vais dire, bon, ok, bah, c'est pas bon.
C'est quoi? Goûtons, parce que là, je n'en peux plus d'attendre. Je n'ai plus envie d'attendre.
Moi, c'est le vin, c'est comme les enfants. Vous avez 3 enfants à la maison. Mais j'en ai 2, oui. Mais je veux dire, c'est un exemple, moi aussi. J'ai 3 vins ici.
Il y a 3 vins.
J'en ai 5. Donc, en tout cas, là, ça fait 2 vins. En fait, vous allez dire, s'il y a un vin où vous... Imaginez quand vous avez 3 enfants. L'un des 3, il est un peu handicapé. Au début, il va pas très bien. Il a du mal à se relever, il a du mal à faire la 4 pattes et tout. Mais 2 autres, ils se portent super bien. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez sur 2 autres, vous investissez plus sur 2 autres pour qu'ils deviennent encore plus forts, ou plutôt sur celui qui est un peu handicapé, qui a un peu du mal
à se mettre sur ses pieds, sur ses jambes, de l'aider encore plus, de investir votre temps là-dessus. Qu'est-ce que vous faites ? Et je crois que, en fait, il faut, moi, ce que je fais, en tout cas, je ne fais pas de différence entre ces valins. C'est que je sais même, le noir, il avait un défaut au début. Il faut être, moi, quand on parle de transparence, il faut être transparent. Mm-hmm. C'est que le noir, je ne dis pas qu'il a une de grande qualité, mais il a cette capacité-là parce que au début, il était oxydé parce que j'avais une dame jeune de 25 litres mm-hmm. et j'avais rempli, il y avait la quantité du vin que j'avais, c'était 14 litres. Donc, il y a la différence qu'il y a. Vraiment, c'est énorme. Donc, ce vin-là, il avait des défauts. En fait, il n'avait pas des défauts. Pour moi, j'aime bien le goût d'oxydation, mais il avait beaucoup de goût de noir. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai donné beaucoup de temps à ce vin-là. Je m'ai investi énormément pour que qu'il reprenne ses marches, qu'il revit la vie qu'il voulait. Donc c'était aussi par rapport à ces trois vins que j'ai fait, donc je ferai jamais des grimaces. Je suis fier de parce que je suis fier de ce qu'ils sont comme personne, comme personnalité, comme de ce qu'ils nous offrent, l'histoire qu'ils nous offrent.
Du coup, tu as des petites quantités, tu es quasiment obligé d'utiliser soit des damjans ou alors des toutes petites barriques, en tout cas des tout petits contenants. C'est ouais. Ça moi, c'est le côté sirupeux quand tu le verses qui m'intrigue. Il y a une texture, enfin j'ai l'impression que ça a l'air lourd, en fait.
Alors, ce vin s'appelle Ava. Ava à peu près.
En hébreu, ça veut dire vivante.
Vivante, ouais. Ava, pas comme association vine d'Alsace. c'est pas, on n'écrit pas AVA, mais plutôt H'WAH. Donc Ava, il est constitué d'à peu près 35-40 cépages, mais en majorité des rouges. Et c'était le premier vendange que j'ai fait en même temps que le noir. Donc sur celui-là, j'ai fait une macération carbonique pendant 5-6 jours. Et avec un peu d'épigeage au bout de 5e-6 jours, juste une fois par jour jusqu'à... en total, c'était macéré pendant 9 jours, 10 jours, ouais 9. Et ensuite j'ai pressé dans un petit pressoir mécanique que j'ai emprunté à Bruno Schuller son âme aussi est dans ce vin, en tout cas voilà, dans ce petit pressoir. Et donc j'ai pressé, ensuite j'ai mis dans la dame Jeanne, qui était à peu près à 40, la dame Jeanne il faisait 50 litres, donc j'avais à peu près 40 litres, 35-40 litres du vin. Donc il y a tout le monde qui passe, qui regarde et je lui dis qu'est-ce que c'est, il manque beaucoup de vin, donc ça sera un vin oxydé, donc ça sera pas très bon vin. Mais j'ai fait toujours confiance, donc j'ai continué de rester sur le même. On m'a dit de le mettre dans de rassembler le Ava avec la Lune Rose pour faire une quantité exacte sur un même contenant qui est adéquate. Mais j'ai pas fait. Donc Ava qui élevage a été fait sur lit. Moi j'aime bien l'élevage sur lit pour donner un peu plus de la richesse. Et j'ai même pas soutiré. Donc l'élevage et tout, la vinification, ça a été fait dans la Dame Jeanne pendant. J'ai mis en bouteille, c'était juste avant le rassemblement général. Donc c'était juste avant Noël, j'ai mis en bouteille. Non, pas en Noël, c'était en janvier que j'ai mis en bouteille. Parce que la vinification était faite et tout, donc tout était terminé. Et comme il y a beaucoup d'espace entre le vin, le contenant, la feuille et tout. Donc je voulais pas prendre le risque de continuer encore. Donc moi, ce que je voulais faire, de faire la deuxième petite vinification dans la bouteille. Okay. Donc il y a une petite vinification, qui est un petit mouvement qui a eu lieu dans la bouteille aussi. Donc j'ai fait à peu près entre 30, 40, 45 bouteilles de à 20 de 50 centilitres.
Goûtons, parce que là, ouais, comme on dit par chez nous, hein. Parce qu'il t'a. C'est ce allez, on fait cling, cling, cling.
Devant les micros.
C'est bon ? Alors, merde, j'ai parlé dans le verre. c'est pas j'ai oublié première.
T'as jamais... Bah si.
Non, mais on a jamais enregistré ces pages.
C'est page pas seulement, c'est page liée, c'est page hybride aussi là-dedans. Parce que c'est page liée et hybride, ce n'est pas pareil.
Géraud, quant à nous, a une expérience avec des cépages oubliés. Ah, c'est un réveil, hein. Bien, belle acidité, une vivacité, une énergie. Alors, c'est vrai que la texture est impressionnante parce que il y a une épaisseur en fait au niveau du liquide.
Ouais, qu'on voyait et on le ressent là.
On le ressent en bouche.
Tout en ayant beaucoup d'acidité quand même derrière. Donc c'est cet équilibre là qui est amusant.
Et puis il y a un côté gras là qui est en train de s'arrondir en fin de bouche là. C'est
du gras et du citron vert, quand même un côté très végétal aussi quand même. Avec ce gras à côté, c'est assez intriguant. Et c'est ça qui est intéressant sur les cépages oubliés et les hybrides, on en parlait tout à l'heure dans la boutique, c'est que quand je l'ai mis au nez, j'ai tout de suite voulu le comparer d'une façon bête à des cépages que je connaissais, à des choses que je connaissais. Et en fait, vu que c'est forcément quelque chose qu'on ne connaît pas, on se ressent un peu plus sur le moment présent, comme tu disais tout à l'heure.
Mais là,
on essaye de prendre un peu plus de...
Là, c'est très méditatique. Là, on vit le moment présent et c'est magnifique, quoi. C'est... Parce qu'en fait, j'ai même pas cherché à avoir des, tu vois, avec tiens, est-ce que ça ressemble à ou même pas. En fait, et c'est ça qui est génial. En fait, c'est le principe même du quelque part de ce qu'on aime bien boire. C'est que quelqu'un qui découvre le vin nature, il veut tout de suite savoir quel est le cépage. Alors que nous, finalement, non, la première chose qu'on a envie, c'est est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on aime pas. C'est après la discussion, on va continuer. Mais
vous voulez un bout de fromage?
Qu'est-ce que tu proposes pour que ça s'accompagne?
Là, j'ai envie de brebis avec ça. J'ai envie de la salinité du brebis, puisque tu as de la salinité aussi dans ce vin-là. Et j'imaginais peut-être un pecorino, du coup, là-dessus.
C'est intéressant.
J'ai jamais fait de cormet vin, mais je suis intrigué.
Je pense que c'est peut-être une connerie, mais on va...
Bah, non, ouais,
il n'y a jamais de connerie.
Il n'y a jamais...
Du coup, ouais. Là, il y a le petit brebis frais qui nous vient de Moselle. Et le pecorino, j'avais le pecorino en tête, mais je me dis pourquoi pas le frais aussi.
Et je trouve que la texture est limite très agréable. Elle surprend.
Le pecorino te rajoute de la largeur, je trouve, sur le vin. Le vin prend plus de place. Le pecorino est presque faible à côté. Donc j'avais pas forcément ça sur la première dégustation.
Même, ouais, limite. Je préfère le frais, moi.
Le frais, ouais, marche mieux, finalement. Dans la tête, j'avais celui-là, et je suis passé à côté du frais. Je me suis dit, bon, allez, j'en découvre quelques petits morceaux. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Et ouais, ça marche bien. Et tu gardes les deux s'harmonisent beaucoup mieux, quoi. Le pecorino se fait chasser par le vin, alors que là, le frais, ça aide à garder en longueur, cette petite... Après, le vin en soi, je sais pas... Il m'intrigue beaucoup. Je sais pas forcément si c'est une bouteille... que j'aimerais ouvrir souvent ou dans quelle occasion l'ouvrir, tu vois, je serais un peu perdu par rapport à ça.
Et toi, tu dirais quoi, en fait? Toi, tu ferais quoi avec? Sans savoir que c'est des cépages oubliés. Ou même si, c'est important.
Parce que là, tu me dis, qu'est-ce que je ferais avec? Ben, j'ai envie de le faire découvrir aux autres pour leur dire, ben, regarde, c'est des cépages oubliés, t'as jamais bu ça, et c'est plus dans une optique de découverte.
Des découvertes.
Une optique de plaisir immédiat, tu vois.
Donc, alors, juste le fromage frais là que tu as, c'est des filles de la Moselle, puisque bah, on goûte.
Ce sont des jeunes Mosellanes, donc c'est principalement Laura Schneider qui s'associe avec Julie qui travaille avec elle dans un petit village, Saint-Jean-de-Bassel, qui est connu pour son couvent. Et en fait, elles se sont installées dans l'ancienne ferme du couvent, mais les sœurs sont très âgées maintenant, donc ne l'utilisaient pas. Et depuis novembre, elles ont 80 brebis et elles s'occupent des 80. De ces 80 brebis, elles transforment du fromage depuis le mois de mars. Donc de façon pas le plus naturelle possible. Une traite par jour, c'est du fromage au lait cru. Elles font de la feta aussi. Et je trouve ça vraiment merveilleux ce qu'elles font. Tu souris parce que je raconte des conneries ou parce que
le nez te plaît? Parce que les deux, tu racontes des
belles histoires. Moi, j'ai de belles histoires.
Et moi, c'est lui qui a profité de
être assez au vin.
Mais en fait, non, le nez m'a perturbé. Enfin, je t'écoutais, le nez m'a perturbé.
Non, écoutez ça.
Donc, on est sur la lune rose, c'est bien ça?
Oui, là, la lune rose, j'ai vendangé en deuxième temps, juste une semaine après la première vendange. Donc, c'est quand il y a à peu près 30 de cépages.
Donc là, c'était des raisins plutôt matures, vraiment très mûrs par rapport à la première vendange. Et puis j'ai vendangé celui-là, j'ai laissé. Il y avait ma majorité des cépages blancs par rapport, contrairement que là-bas, il y avait des plupart des cépages blancs, alors que la couleur qu'on voit, on dirait que c'était la même chose que là-bas. Mais alors que non, je comprends pas, je crois, je suis, enfin c'est, j'ai fait une presse très longue qui ça a duré à peu près un jour et demi. Donc si j'ai extrait pas mal de, oui, j'ai touché vraiment la peau, la vraie, j'ai touché vraiment l'endroit où il fallait pour extraire plus de la couleur, juste par rapport, juste à peu près 10-20 des grappes rouges que j'avais par rapport à les grappes blancs. Donc ces grappes rouges qu'il y avait là-dedans, dans ce vin, ils ont donné ce couleur-là. Et je m'attendais pas, parce que je me suis dit j'allais faire un peu plus blanc, mais finalement ça m'a donné cette couleur un peu une robe roby profonde avec oui, avec on voit que on dirait qu'il y a une pierre de Perse qui est cachée juste à l'intérieur. plaisanterie à part, oui. Et donc j'ai vendangé ça, j'ai massé aussi macération carbonique pendant 4 jours. Oui, j'ai fait dans un contenant, des bidons, des contenants bleus là, de 100 litres pendant 4 jours. Donc ensuite j'ai laissé encore. En fait, voilà, c'est ce que j'ai fait pour celui-là. J'ai fait un sandwich. Donc tout en bas, il y avait un peu, c'était des raisins en grappe entière. Au-dessus, j'avais égrappé, et encore au-dessus, j'ai mis des raisins que j'ai pressé. En fait, j'ai touché, j'ai, comment dire, j'ai essayé de sortir un peu le jus. J'ai laissé au-dessus, et après, j'ai mis un pied de cuve encore au-dessus, juste pour la fermentation, pour ne pas avoir à ce goût, pour ne pas que ça parte en déviance, parce que j'avais quand même, après la macération carbonique, j'avais un peu de jus tout au fond. Donc j'ai fait un sandwich en 4 étages comme ça. Un essai, un ami qui m'a dit pourquoi pas de le faire. Donc j'ai fait. Donc ouais, j'ai fait ces 4 étages. Donc ça a été, j'ai laissé ensuite au bout de deuxième, dans le septième jour, j'ai commencé à piger. Donc juste pour que juste mélanger et tout. Donc j'ai fait le pigage à peu près deux, trois fois pendant 3 jours. Donc au bout du dixième jour, j'ai pressé aussi celui-là. Donc j'ai pressé, j'ai fait une pressurage longue. J'ai commencé à 20 h de soir et j'ai terminé le lendemain à 19 h-20 h aussi.
Donc,
Oh,
tout
ça
en
fait.
manuel aussi.
Oui, manuel aussi. Ouais.
Donc, toutes les heures, tu rajoutais un cliquet comme
Oui,
tu.
toutes les heures.
D'accord,
Ouais. En fait, le soir même, j'ai fait plusieurs cliquets pour que tout ça se ressort. Donc j'ai vu que ça ressortait pas grand-chose, je me suis dit j'avais pas fatigué encore. Donc j'ai laissé une nuit entière comme ça, j'ai mis une couverture blanche, grande couverture blanche pour que les mouches ne s'installent pas là-dessus. Donc il y avait un seau en dessous pour que si jamais ça coule un petit peu, voilà. Donc le lendemain on devait vendanger les raisins de domaine Laurent Van Wart. Donc on a fait, en fait comme j'étais entre les vignes et la cave avec Stéphane. Donc à chaque fois qu'on venait à la cave, je disais à Stéphane, c'est que, en fait, je devais décharger le camion avec des raisins. Dès que je déchargeais, avant de repartir dans l'eau, repartir dans les vignes pour charger la remorque avec des raisins, je disais à Stéphane, je prends juste 5 minutes, 2 minutes pour mettre 2-3 cliquets. Donc ça fait 5 cliquets ou 6 cliquets en une journée entière. Donc c'est à ce moment-là que j'extrais plus d'anthocyanes. Et comme ça, au bout de. Après, j'ai vu vers 18 h, ça donnait pas grand-chose. C'était bien sec. Et en fait, comme le pressoir manuel il était très petit, j'avais du mal à vraiment forcer beaucoup. Je pouvais pas extraire plus du jus parce que c'était compliqué. C'était parce que c'était très petit, je crois. Donc, je me suis pas fatigué plus et j'ai fait plus de quantité que là-bas. Donc, quand même, j'avais une damejeanne de 50 litres, mais j'ai pu remplir jusqu'à 40, 45 litres quand même. Donc, il y avait un peu plus de jus par rapport à les autres cuvées. Donc, j'ai mis dans la damejeanne et pareil, élevage sur lit pendant, donc c'était septembre jusqu'à fin janvier. Donc, la lune rose, c'est une belle histoire aussi parce que ce jour-là, c'était un matin. Je suis arrivé à 7 h du matin au domaine. Je devais faire la mise en bouteille dans la journée qui passait. Je voulais pas, je pouvais pas attendre jusqu'à le soir pour faire après le travail. Donc, comme je me basais beaucoup sur la lune et tout, donc toutes les mises en bouteille de ces trois cuvées, je me suis basé sur la lune, jour de fruits, pour la dégustation et pour la mise en bouteille, ça soit propice. Donc, j'ai eu la chance de faire les trois parce qu'avec Stéphane, j'ai discuté avec Stéphane, j'ai dit comment j'arrive à faire ça parce que s'il m'en va, il a un petit contretemps et tout, comment je peux me baser sur la lune parce que Stéphane, il essaye aussi, mais pas, en fait, c'est que par rapport au travail qu'il a dans les vignes ou dans la cave, c'est un peu compliqué de se baser pour la mise en bouteille, le jour que ça soit propice, par rapport à la lune. Donc moi, je voulais absolument y arriver. Je me dis, même si mon vin, il n'est pas très bon, mais grâce à la lune, je peux peut-être proposer quelque chose de que ça soit buvable, en fait, que ça soit agréable à boire. Donc ce jour-là, la lune était rose, le petit matin. Et donc sur l'étiquette, c'est la photo, c'est moi qui ai pris. Donc que j'ai mis tout de suite pour que ça montre que c'est un moment, c'est un vin qui a beaucoup des... Dans des instants qui met plutôt des instants qui sont présents. C'est instantanément en fait, c'est tout de suite. C'est un vin qui réagit tout de suite, qui est récent, qui est là, qui n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il est là parce que il mérite d'être là parce que c'est après pour parler de ces trois vins-là, je crois beaucoup sur la méritocratie et ces trois-là, ils méritent d'être là. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, même si un autre jeune français ou que ça soit syrien ou d'un autre pays qui aurait fait, il aurait fait un travail qu'il fallait faire. Donc je dis pas que c'est comme c'est moi qui l'ai fait, bah, c'est des vins qui méritent, qui doivent être là, mais c'est des vins de ces trois cuvées et comment dire, on peut les considérer comme un livre. Parce que ça nous ramène dans l'imagination, ça nous ramène dans un autre, ça nous fait voyager. Et moi, j'aime bien faire des ventes, des voyages pour faire penser autre chose à des gens, changer des idées et faire voyager dans le pays que j'ai suis passé, de raconter mon histoire à travers ces vins-là.
La lune rose, c'est ce que j'aime boire. J'ai l'impression de boire un pinot gris, un peu.
Macération, ouais.
Et
Et on a toujours le travers de vouloir le rapprocher à quelque chose qu'on connaît.
en fait, la sensation, c'était vraiment de pinot gris qui arrive, tu vois.
C'est mon cépage préféré.
Il y a le côté très épicé aussi qu'on retrouve sur pas mal de
J'aime
macérations.
beaucoup l'aroma, mais
Elle est très épaisse.
la lune, non, non. En fait, je trouve que la lune rose a déjà plus de longueur. Je trouve que l'histoire raconte. Je sais pas, j'ai l'impression que de tout ce que tu nous as raconté depuis le début, c'est peut-être, alors, dans 10 ans,
Dans 10 ans,
j'espère
vous
que
allez
je pourrai
goûter,
parler
moi.
de Noah, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de toi là-dedans,
Ouais.
même s'il est dans les deux, mais ouais, il y a un côté, parce que tu parlais d'une perle perse. Mais en fait, moi aussi, ça m'avait surpris cet assemblage de couleurs, un peu comme un cocktail, et au milieu, tu as l'impression qu'il y a un truc un peu plus épais. Et non, ça me. Ouais, en fait, il me touche plus que Kawa. Évidemment, Awa reste un très bon moment, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que là, j'ai
Il y a plus
une. Non, il me donne des
dedans.
frissons. En fait, j'ai des frissons, quoi. Là, il m'a touché, là, il m'a.
Il y a plus d'équilibre aussi, je
Ouais.
pense. Il y a beaucoup d'épi, il y a une belle buvabilité, il y a une belle longueur. Il y a un petit côté pâte d'amande, je trouve aussi, qui me plaît bien. Donc ouais, ça c'est très bien fait.
Ça, c'est très très bon. Et c'est vrai qu'Awa peut-être mériterait de vieillir, peut-être ouais. qu'il gagnerait en
longueur. Il a besoin du temps.
Mais évidemment, je trouve que quand on voit ton histoire et oser casser les codes à ce point-là et se dire je vais m'attaquer, moi ton combat, moi j'ai envie de. Je sais pas si on y arrivera, hein, mais ouais, moi j'ai envie.
Moi tu as spoilé un petit peu avant, mais c'est quoi ton projet du coup? Parce que tu as dit que tu avais un grand projet. Là, tu as fait tes tests sur ces cépages.
Non, il a un rêve. Je ne sais pas parler.
Ah, c'est un rêve. D'accord. Je me demandais si dans le futur, tu allais prendre des cépages avec lesquels tu as aimé travailler et les planter sur une parcelle ou voir.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est moi.
C'est ton rêve, c'est ton projet.
Socrate,
c'est ton projet.
Socrate, il dit que lorsqu'on raconte nos rêves, ce n'est plus un rêve après. Donc, j'aimerais pas parler beaucoup de mes rêves, mais plutôt de mes objectifs.
Ouais.
Mon seul objectif, en fait, j'ai beaucoup d'objectifs maintenant parce que dans ma tête, il y a beaucoup de choses.
Tu m'as parlé beaucoup de questions très très pragmatiques sur la boutique. Je me demandais si c'était pas un de tes projets aussi. Excuse-moi.
Écoute,
toi, tu t'uses sur des points très 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 sensibles. Alors. Je vais être très très sincère avec vous. Je crois avant que je pense à moi, je pense à l'humain, je pense à le nom d'Alsace et l'image que je veux donner d'Alsace. Mm-hmm. Mais avant tout, c'est la France pour moi. L'Alsace, comme on est en France, donc je veux donner une bonne image de la France aussi à travers ces valeurs. Ça fait très très égoïste de dire je, mais je vais dire plutôt on souhaite, nous voulons de faire autoriser ces cépages là un jour quand on met moins de produits synthétisés ou chimiques dans les vignes. De juste réduire ce coût-là parce que il faut préserver la nature. Moi, je souhaite que l'avenir pour la future génération, ça soit adéquat et qu'ils puissent vivre dans un monde qui leur correspond et qui soit heureux. Premièrement. Et deuxièmement, c'est de. Si on parle de mes vins, c'est que j'aimerais faire encore des vins. Et j'aimerais ramener de la transparence dans le métier. C'est-à-dire que la transparence, ce que je dis, tout ce que j'ai vu, ce n'est pas aussi... aussi ambitieux. Mais moi, ce que j'aimerais aussi dans l'avenir, c'est de créer une cave, de proposer de certains plats ou certaines choses de mon pays. Et j'aimerais que les gens, ils me voient comment je fais du vin. Je veux que les gens, ils participent. Je veux que leurs âmes, ils soient dans mon vin. Je veux qu'ils sentent dans la circonstance que je me trouve tout seul ou que ce soit avec les autres. Je veux que tout le monde participe parce que, à travers tout ça, je veux donner une autre image de ce métier-là. Je veux ramener de l'innovation dans le métier. Les cheveux.
Bah, tu casses les codes déjà, c'est une bonne chose.
Non, le fait de montrer, je trouve que la dame jeune, justement, est un bon contenant pour ça, puisque tu peux avoir déjà. Moi, je peux avoir une dame jeune dans 25 mètres carrés, ça te tient. Mais en plus, c'est très visuel. Tu vois ce qui se passe, tu peux entendre aussi, tu vois les bulles pendant la fermentation. Et c'est vrai que ça ramène un petit peu. Il y a beaucoup de brasseurs qui font ça maintenant, de vouloir brasser sur place devant les gens. Et c'est vrai que la même chose d'un point
après, de vue. Après, les contenants comme l'amphore sur ces phages-là, ça peut être peut-être.
C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, dans l'avenir, ce que je veux faire, c'est que je veux faire du vin que dans des dames jeunes, que dans des tonneaux et dans des amphores. Que dans ma cave, il n'y aura pas des cuves en inox.
Et tu veux t'installer en Alsace?
Bien sûr que oui.
Du coup, ça c'est un projet, enfin, je trouve ça génial, mais je me demande si ça peut fonctionner en campagne, ce genre de choses-là, ou si c'est quelque chose d'hyper titanin.
En campagne, c'est-à-dire
qu'il faut qu'il y ait du monde en dehors de Strasbourg, en Alsace.
En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que je ne cherche, si je veux faire dans l'avenir du vin pour moi, c'est que je ne cherche pas à faire du vin pour l'export. Je ne cherche pas à faire satisfaire des personnes qui se trouvent à 7000 km loin de moi. Moi, je souhaite satisfaire localement les gens, des gens qui se trouvent autour de moi. Je veux ramener ce côté pédagogique, ce côté amusant, ce côté joie, ce côté bonheur, ce côté retrouvaille avec des personnes autour de moi. Donc je veux me concentrer sur des personnes qui se trouvent autour de moi. Donc aujourd'hui, on fait du vin pour satisfaire la demande des clientèles. Que maintenant aussi dans le monde de vin nature, on peut le trouver parce que beaucoup de vignerons, par exemple aujourd'hui avec tous ces attaques de mildiou et de l'odium, il y a des personnes qui achètent des raisins, qui font du vin, qui en fait, on n'essaye pas vraiment de se concentrer localement, on essaye beaucoup de l'export. Mais moi, ce que j'aime, c'est pour là. Je dis, je veux travailler pour la nature et pour l'humain. Avec, je ne veux pas mettre des empreintes carbone, que ça soit vraiment excessive, alors que si je peux éviter ça, si chacun de nous en fait quelque chose pour la nature et pour l'environnement, on arrivera à combattre le réchauffement climatique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense beaucoup à nous-mêmes, à notre gain, à notre besoin. Et moi, ce que j'aime, ce que Socrate dit, c'est ma phrase préférée, c'est qu'il dit... le plus riche est celui qui est content de très peu, car la richesse est dans la nature. Donc moi, je me contente de très peu et de la richesse qu'il y a dans la nature. Et pour moi, j'ai pas envie d'avoir un gros domaine avec un revenu énorme. C'est pas ça. C'est juste, je veux transmettre mon savoir, ma passion pour les jeunes générations dans le futur qui vont faire aussi des belles choses. Je veux pas qu'ils fassent comme moi, parce qu'aujourd'hui, je n'écoute pas les anciens. Je ne prends pas d'exemple sur eux. Je veux faire des choses qui me parlent, qui me correspondent, que je me dis, je peux ramener de l'innovation en étant être positif et créatif. Donc les anciens, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire pour moi. C'est aussi, si l'Alsace, c'est connu, c'est grâce à eux. Mais aujourd'hui, il faut tourner la page. Je suis en Alsace, il y a des jeunes vignerons qui font un travail remarquable. Que je prends l'exemple comme Théo Hena, que je suis quand même très touché par ce qu'il fait, les démarches qu'il a, par Arthur Bonne, par la Grange de l'Oncle Charles, des exemples par les Finambules, qui font un travail extraordinaire dans les vignes, qui plantent des arbres, qui font des coplantations des arbres. Il faut en parler de ces gens-là, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on parle, il faut qu'on se rapproche plus, parce que nous sommes des futures générations. Et moi, ce que je pense, c'est encore la génération d'après nous. Je veux que dans l'histoire, ils parlent de nous en disant que ces personnes-là, ils ont créé la vie, que ce soit en France, en Alsace ou dans le monde, comme ça. Et qu'on peut prendre des bons exemples sur eux. C'est mon objectif, c'est ça. Je veux pas faire des choses pour moi, pour ma famille, mais plutôt pour tous les êtres humains. Et surtout pour les micro-organismes, les animaux qui vivent dans le sol. Pour ne pas les déranger beaucoup sur leur travail qu'ils font pour nous, quand même c'est extraordinaire, qui fait un travail pour nous, qui nous permet de faire par avoir des minéraux dans la terre, c'est quand même extraordinaire pour les racines, ce qu'ils captent après. Donc il faut qu'on soit plus conscient de l'impact qu'on peut avoir dans les vignes, parce que c'est bien, on fait de la biodynamie, des vins nature, mais l'impact qu'on met dans les vignes avec les tracteurs, avec tous ces passages-là, avec tous ces produits-là qu'on met pour traiter. Il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on revienne un peu en arrière. C'est mon objectif, peut-être pour certains, ça va paraître très très ambitieux, mais je sais qu'avec grâce à ces cépages-là, un jour, on peut arriver.
Je pense que ce sera un des futurs débats, de toute façon, les cépages hybrides contre d'autres cépages, mais avec d'autres méthodes. Je n'ai pas forcément d'avis très tranché là-dessus. Mais vraiment un petit fond. Mais il y a aussi ce traitement de cuivre et de soufre. Je pense que c'est dommage de taper trop dessus, parce que souvent c'est au profit de ceux qui ne font pas du bio, donc qui mettent des choses qui sont pires que ça. Mais c'est un débat hyper intéressant. Est-ce que ce que tu viens de dire là me touche beaucoup? Je trouve qu'on se rejoint sur beaucoup de combats, sur beaucoup de une vision aussi de la vie, de vouloir faire les choses pour quelque chose de plus grand que soi-même ou sa cellule juste familiale. Et ouais, hyper.
En tout cas, nous on a envie de te suivre et on a une tradition dans le podcast.
Est-ce guilt? Non, c'est pas ça.
C'est la petite interview un petit peu sauvage, alors que. Je l'ai un petit peu modifié parce que il faut qu'elle reste quand même dans l'idée du podcast, en tout cas de l'histoire. C'est quoi ton dernier coup de cœur que tu as eu en termes de vin? Le dernier vin que tu as bu, tu t'es dit « Waouh !» Bonne mort, t'es pas...
Le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était par la créativité que j'étais vraiment impressionné par le domaine Geschicht. Ils ont fait un assemblage avec des cerises et du vin. Ça m'a beaucoup fait marquer. Ouais. Donc je me dis, ces personnes, heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui osent changer le monde, qui osent faire, non pas changer le monde, osent changer l'image de leur domaine. Parce que c'est très important, parce qu'on se lève toujours de lit pour dire qu'on va changer le monde, mais qu'après on ne fait pas notre lit, parce que de fait la première chose qu'il faut faire, faire son lit. Et ça, ça veut dire changer soi-même. Donc ces personnes, ils ont osé faire quelque chose dans leur domaine pour donner une autre image de leur domaine sans avoir peur. Et cette résilience, ce courage, j'aime beaucoup.
Le dernier livre ou disque ou film ou série que tu as regardé et...
Alors film, série ou disque, parce que j'ai quand même pour chaque chose...
Pas pour chaque chose.
Alors la série qui m'a fait beaucoup marquer, que j'aime beaucoup sur Netflix... qui m'a changé la vie, je sais pas, mais qui m'a inspiré beaucoup, c'est la série de Shelby, Tommy Shelby.
Ah oui.
Et le livre, c'est
Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Je cherchais.
Ouais, Peaky Blinders. Et le livre, c'était un livre de...
Ah non, on récupère ça.
Bah justement, il peut faire 2-3 parallèles et je me dis, tiens, si ça t'inspire. Parce qu'il essaye d'exporter du jean dans un endroit où. De faire du jean et l'exporter aux États-Unis où il y a la prohibition là-bas, c'est assez abusant. Ouais. Bref.
Le dernier disque que. Ouais.
Livre ou.
Disque non.
Disque, c'est que disque.
Bah, le dernier album. Ou...
La musique.
Ce que tu as écouté dernièrement, c'était
dit, c'est mes musiques avant. Je suis un musicien quand même. Ouais. Je fais la musique, donc c'est j'écoute uniquement mes musiques avant.
Ok. Et le dernier livre.
C'est un livre de Steiner.
Ok.
Qui parle de.
La biodynamie.
Sabine, l'agriculture de.
Le gros agriculteur.
Ouais. Que j'aime énormément, que j'ai même je lis même plusieurs. Beaucoup.
Et avant l'amour, tu bois quoi?
Du vin.
Et après l'amour, que vois-tu?
Je bois de l'amour.
Oh, c'est magnifique. J'allais dire, il était aux Pays-Bas, je m'allume un joint. En tout cas.
Non, mais avant et après, c'est à cause de l'amour, il n'y a rien d'autre.
C'est magnifique. Moi, je trouve.
Pleine conscience.
C'est toujours en pleine conscience, je crois, chez lui. C'est magnifique. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment, je crois, pour toi aussi, Adrien.
Oui, plutôt.
c'était un peu une plume dans cette journée. Je trouve ça assez magnifique. Et moi, je vais te suivre, tu sais. J'ai envie de partager. Et ça va être intéressant de
poser. Je suis très curieux, moi, de tes futurs projets.
J'étais curieux maintenant. Et je pense qu'on va peut-être rajouter une question sur les cépages hybrides et oubliés aux autres vignerons, voir un petit peu ce qu'ils pensent.
Oui, ça peut être intéressant.
Si tu veux mener un combat, ben, on commence à le faire ensemble. C'est déjà un média sur les vins d'Alsace et que tu veux t'installer en Alsace, autant qu'on essaye de mener ce combat ensemble. J'ai été touché aussi par la réponse que tu as donnée à RCL, je crois, sur ton rêve ultime, c'est un jour de planter des vignes en Afghanistan.
Oui.
Alors ça semble
impossible.
Un peu compromis aujourd'hui. Je souhaite à nos amis afghans vraiment que les choses s'améliorent. En tout cas, ça m'a touché parce qu'avec l'actualité aujourd'hui, C'est vrai que ça semble totalement impossible et utopique, mais un petit peu d'utopie nous fait du bien. Donc, si un jour c'est possible, moi je veux venir d'accompagner en Afghanistan. Bon, là j'avoue que j'ai pas trop envie.
Bah, si tu veux qu'on parle de ça, mais je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que ça se passe actuellement. Tout récemment, pour que les auditeurs ils comprennent quelle est ma place maintenant dans ce monde-là, parce que j'ai quand même un rêve de retourner dans mon pays, de faire des choses pour mon pays, parce que c'est où il y a mes racines. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, je sais pas, c'est vraiment très bouleversant pour que ce soit pour moi ou pour d'autres d'êtres vivants. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, par le choix qu'on peut y avoir, il y en a deux choix. Soit on cherche des problèmes et on s'en plonge dans la mer des problèmes, ou soit on reste positif et on cherche des bonnes solutions. Pour moi, la meilleure solution aujourd'hui, c'est que j'ai essayé que à travers de ce podcast-là, où je veux ramener cette positivité-là, c'est une posante là pour les gens, que il y a des personnes comme mes oncles qui sont des artistes, qui font des très bonnes choses, et d'autres amis afghans et afghanes à Paris qui essayent de donner une bonne image de l'Afghanistan. Et il y a moi ensuite, après, derrière tous ces gens-là, à travers les vins et ce domaine-là, je veux donner une bonne image de l'Afghanistan sans s'imaginer, sans parler de la guerre, des talibans, de toutes ces choses-là. Premièrement. Et deuxièmement, c'est de juste... Si je veux ramener ce combat-là pour les cépages hybrides, c'est que je me bats aussi pour qu'un jour je puisse planter ces cépages-là en Afghanistan. C'est mon rêve. Personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais le faire à l'aide de mes confrères, de pouvoir faire ça. Mais de se dire que tout est possible. Ces gens-là qui sont très islamistes, qui pensent, qui disent que l'alcool est interdit alors qu'ils tuent les gens. Donc c'est pas la meilleure chose. Donc je préfère faire du vin plutôt que les tuer. Donc il faut voir les choses, il faut reprendre le livre. Quand on parle de Coran, c'est que dans notre religion, de relire vraiment si tuer c'est comment, et de faire de l'alcool ou boire de l'alcool, c'est quoi vraiment le pire, quand on va dans en enfer ou en paradis. Et je crois que je pourrais combattre tous ces gens-là à travers mes vins. Si un jour ils souhaitent boire du vin, je peux leur faire des vins sans alcool, hein, s'ils souhaitent les talibans. Mais c'est des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas leur place sur cette terre-là, parce que aujourd'hui, on a... cette peuple-là, ils sont devenus plus sauvages. Donc on a des os pour les animaux. Maintenant, il faut inventer des os pour des êtres humains, comme les talibans. Donc ça peut être aussi un bon compromis entre des personnes qui ont envie de vivre librement et ces gens-là qui sont des sauvages. Et je sais que je vais faire encore des vins, plus des vins. C'est juste qu'ils voient que des Afghans, que ce soit en Afghanistan ou à l'extérieur, et ils vont faire des belles choses à l'extérieur, et un jour, ils vont revenir. Et ils vont revenir avec l'or, pas avec l'arme, pas par la violence, mais par leurs œuvres, et leur mentalité, et leur langue, parce que nous avons une langue. On n'est pas des animaux pour tuer, juste pour faire la violence, mais on a une langue et un cerveau. À travers ça, on peut combattre tous les personnes qui sont contre l'immunité. Des personnes qui sont pour la violence. C'est notre force, notre arme, c'est un stylo et notre langue, je trouve. Et à travers tout ça, on arrivera de représenter l'Afghanistan comme il était avant 1970, et on faisait des vieux vins. Et notre vin, ça ressemblait plutôt comme un vin de Porto. Lorsque l'Alexandre Grand il est passé par l'Afghanistan, par Bukhara, c'était plutôt nord de chez moi, au nord d'Afghanistan, à côté juste chez moi, et entre
c'était pas très loin de la route de la soie. Il avait dit que les meilleurs raisins du monde se trouvent en Afghanistan. Donc moi je dis que le meilleur cépage, le meilleur raisin du monde, c'est en Afghanistan. Donc le jour quand ça viendra, je vais prouver ça, que nous avons les meilleurs cépages et qu'on peut faire des meilleurs vins avec.
Inch'Allah.
Je vais te remercier Adrien. On va garder le mot de la fin, comme ça, ces mots-là. Merci pour ce moment. Je pense que tu as passé un bon moment.
Oui, oui, complètement.
Tu es un petit peu en mode, un petit moment un petit peu différent et avec un discours différent. Et je pense que tu le sais, on est là et on va te suivre dans tes combats. On va essayer de les partager au maximum. En tout cas, ne change pas. Comment on dit merci en afghan?
Tachakor.
Tachakor à toi.
Tachakor.
Et puis, prends soin de toi.
Merci.
Et surtout, continue à répondre aux
mêmes. Et vous aussi, vous continuez de faire ce podcast parce que vous permettez à des personnes comme moi d'écouter votre podcast et de s'informer, de s'instruire, de accroître ses connaissances à travers vos podcasts sur d'autres vignerons. Et ça nous permet aussi d'apprendre sur d'autres personnes. Et c'est amusant.
On va continuer. Ouais. En tout cas, comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre et buvons
à Alsace.
Est-ce qu'il
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.